le texte. Vous voyez le texte et vous me voyez?
On voit vous, mais pas le texte. On a le texte. Vous m'avez distribué le texte.
Vous le voyez ou pas?
Non.
Non.
Mais, ah, t'as mis, j'ai un screen ou pas?
C'est le même texte que la dernière fois. Hein?
Oui, c'est le même texte que la dernière fois.
Alors, on l'a, on l'a. On l'a sur nous. Mais full screen, le rage, c'est bon.
J'ai pas de
screen. Double clic sur lui. Double clic sur lui.
Ah, là, ça marche.
Vous l'avez?
Ouais.
Ok. Alors, je fais un petit récapitulatif de ce qu'on a étudié la dernière fois, Bezrat Hashem, avec votre permission. Nous avons dit que toute chose qui a été créée avec une nature qui lui est propre. Et c'est seulement lorsqu'on atteint cette nature que nous pouvons ressentir un repos. C'est-à-dire que le repos de notre neshama, la tranquillité, la quiétude, l'équilibre, ne peut pas être atteint dans votre vie, dans notre vie, dans la vie de chaque chose, tant que vous n'avez pas touché l'essence même de laquelle vous venez. Les sages dans la Kabbalah nous disent une expression « En hadinim nimtakim ela beshorsham ». Traduction: les dinim, les rigueurs et tout ce qui apparaît dans ce monde ne peut pas être adouci si ce n'est que lorsqu'on arrive au shoresh, à la racine de la chose. Autrement dit, si on est loin de notre racine, de notre identité, quand j'appelle racine, je parle d'identité, eh bien on ne peut pas en réalité être dans un état de repos. Qu'est-ce que ça veut dire être en état de repos? Être en état de repos, c'est avoir tout, trouvé en fait son moi. Tant que tu n'es pas dans la vie de ce que tu es vraiment, eh bien, on ne te laissera pas en fait te reposer. Il y aura un mouvement à l'intérieur de ton être qui va se libérer et qui va en réalité faire en sorte de ne jamais te laisser tranquille tant que tu n'es pas en train de faire ton travail. Donc il y a ici, et d'un côté, un manque de repos, et d'un autre côté, un moteur qui te pousse à atteindre ta source. Et donc je reprends le texte. Kol davar nivra b'teva haraoui lo. Chaque chose a été créée dans la nature qui correspond à ce qu'il est. C'est-à-dire dans une nature appropriée à la chose en question. Et c'est pour ça qu'il n'y a de nachat ruach, de repos du souffle, si ce n'est que lorsque tu as touché cette racine. J'ai donc dit tout à l'heure, en hadinim nimtakim ela beshorsham. Quand vous avez un problème dans ce monde, tant que vous n'avez pas touché la source du problème, eh bien, le problème n'est pas réglé. Ça ne sert à rien de guérir quelque chose de superficiel alors que l'essence n'a pas été guérie. Vous comprenez bien ça. Et donc, on ne nous laissera jamais tranquille tant que nous ne sommes pas vivants en respectant notre identité profonde. Et toute chose qui revient vers sa nature, c'est son repos. Par exemple, vous savez que l'homme et la femme ont été créés comme une seule neshama, et lorsque cette neshama descend dans le monde, elle se divise en deux parties. Une partie qui va s'habiller dans la fille, une partie qui va s'habiller dans le garçon. D'où est-ce que vient la femme? Eh bien, on a vu dans la paracha de Bereshit, qui met Ish Luka Chazo. La femme a été prise de l'homme. Elle a été sortie de l'homme. Ça veut dire que la source de la femme, c'est l'homme. Si la source de la femme, c'est l'homme, où est-ce que la femme trouvera un jour un repos dans sa vie? Seulement chez son homme. Et c'est pourquoi l'homme s'appelle Chatan. Inversez les lettres de Chatan, vous obtenez Nachat, c'est-à-dire le repos. Donc la femme a besoin de se reposer. Comment est-ce qu'elle peut atteindre ce repos? Seulement lorsqu'elle a retrouvé en fait la source de laquelle elle a été prise. Vous êtes avec moi?
Oui.
C'est bon? Ok. Alors, il y a ici donc un retour à la source. Ce retour à la source s'appelle d'une manière générale la Teshuvah. Teshuvah peut se traduire en hébreu comme étant un retour. Ce retour, en réalité, c'est un programme, c'est une manifestation divine qui se traduit dans ce monde par un mouvement perpétuel. C'est-à-dire qu'on n'est jamais tranquille dans ce monde, on n'a pas de menoucha réellement, parce qu'on est tout le temps poussé à retrouver notre nature la plus profonde. D'accord ? Cette nature existe bien avant la création du monde. C'est pour ça que les sages dans la Gemara, dans le traité de Psachim, à la page 54, nous dit clairement « Teshuvah kadma laolam ». La Teshuvah a précédé le monde. Ce qui veut dire que c'est la raison pour laquelle le monde fut créé. Donc on va traduire Teshuvah par un retour, par un mouvement de retour. Le monde a été créé pour qu'il y ait ce mouvement continuel, perpétuel, comme un moteur qui marche sans arrêt et qui pousse tous les êtres à retrouver leur essence. Bien entendu, l'essence de tous les repos, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc, quelque part, on cherche Hachem dans tout ce qu'on fait. Israël, en tant que création divine, ce n'est pas encore un peuple, c'est une neshama. Rabbi Akiva, dans la Mishnah, appelle cette neshama, qui s'appelle Israël, Chaya. Il y a une braïta, une Mishnah qui n'a pas été retenue, qui est en dehors des Mishnayot, on appelle une braïta. Et dans cette braïta, il est écrit, Amar Rabbi Akiva, Rabbi Akiva nous enseigne, Chaya, Achat, Romedet Be'emtsa Harakia, Ushma Israël. Il y a une vie, une forme vivante qui se trouve au centre même des cieux, de l'un des cieux qui s'appelle Rakia, et cette forme de vie s'appelle Israël. Dit Rabbi Akiva là-bas qu'il est gravé sur son front Israël, et c'est elle qui fait bouger en réalité tous les mouvements de ce monde. Ce que veut dire Rabbi Akiva dans cette Mishnah très profonde, c'est que le peuple d'Israël est une création divine qui est responsable de ce mouvement en réalité de la Teshuvah, donc de tout faire revenir à sa source divine. On a donc expliqué que si, vous voyez la flèche avec le texte ?
Ouais.
Que si quelqu'un ne trouve pas de repos, n'est pas heureux de sa nature, c'est sûr que ce n'est pas sa nature. En fait, il s'est planté. Il est allé vers quelque chose d'autre. Donc, c'est une forme, un examen, un exercice qui prouve que cet homme n'a pas atteint sa véritable source. Au lieu d'aller vers sa source, il a atteint quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'il n'a pas de repos. C'est pour ça qu'il n'a pas de simcha. C'est pour ça qu'il n'a pas de joie intérieure et de calme intérieur. Et pourquoi ? Pour ne pas le laisser se tromper. Parce que s'il se sentait tranquille en croyant que c'est sa nature, eh bien, il aurait continué sa vie sur cette nature-là, qui n'est pas la sienne. Pour ne pas que l'ombre se trompe, cette nature ne le laisse pas tranquille. Elle demande, reviens vers moi. Tu t'es planté, tu es allé vers une autre nature, donc je ne te laisse pas tranquille, tu ne sentiras pas de repos. Recommence ton exercice. Tant que tu n'es pas revenu vers moi, ta vraie nature, je ne te laisserai pas tranquille. Oui, j'écoute.
Mais il n'y a pas la nature qu'on est, la nature qu'on voudrait être. Il ne faut pas avoir une différence entre les deux.
La nature que nous sommes, ce n'est pas la nature que tu vois ici en bas. Je parle de la nature telle que Akadosh Baruch Hu t'a formaté au départ.
Oui, mais
est-ce que dans ta vie d'aujourd'hui, tu vis selon cette vraie nature de base? Oui ou non?
Oui.
Ta nature de base, il faut que tu la cherches. Est-ce que tu es fidèle au modèle initial qu'Akadosh Baruch Hu a voulu que tu sois? Oui ou non?
Ben non, parce qu'on a le libre arbitre.
Mais même si tu as le libre arbitre, tu aurais pu vouloir l'être et arriver à l'être. Pourquoi est-ce que tu es encore à une distance entre toi et toi? Tu comprends ce que je suis en train de te dire?
Je ne connais pas.
Ça veut dire qu'il y a un oubli. Ce monde, en réalité, est un monde d'oubli. Parce que nous nous sommes éloignés de cette source première, nous sommes dans un monde d'oubli et nous essayons de chercher en réalité notre vraie nature. Alors là, nous sommes étudiants en train d'étudier cette vraie nature. Cette vraie nature, c'est Israël. Mais qu'est-ce que c'est qu'Israël? Donc, je suis obligé de faire un doctorat sur ma vraie nature. Il faut que je fasse une recherche de ce que représente le peuple d'Israël, puisque j'appartiens à ce peuple. Tant que je ne sais pas quel est le rôle de ce peuple, quelle est la nature de ce peuple, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des mitzvot, je vais étudier la Torah? Ça ne suffit pas. Tu n'es pas encore véritablement fidèle à ta véritable nature, à ta véritable identité. Et donc, c'est une recherche permanente. Et tant que tu n'as pas de repos en réalité, c'est que tu n'as pas trouvé cette véritable neshama de base.
On arrivera à reprendre ou pas?
On arrivera un jour à la retrouver?
Oui.
C'est ce qu'on appelle un tzaddik gamour. Moshe Rabbeinu est arrivé aux retrouvailles avec sa vraie nature. Abraham Avinu est arrivé aux retrouvailles avec sa vraie nature. Et quel est le test dans la Torah qui nous prouve ce que je suis en train de vous dire? À chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu appelle quelqu'un deux fois. Vayomer Hashem el Moshe, Moshe, Moshe. Pourquoi deux fois? Abraham, Abraham. Vous comprenez ce que je suis en train de dire?
Il a fait avec Noah.
Ça veut dire que le véritable Abraham qui était dans la racine des choses, c'est le Abraham que vous voyez à l'extérieur. Et c'est pourquoi Moshe était fidèle, complètement fidèle à lui-même. Bechol beiti ne'eman hu, il est dit dans le verset, dans toute ma maison il est fidèle. C'est-à-dire il est fidèle d'abord et avant tout à lui-même, à sa véritable nature. Donc, quand on arrivera à cette fidélité, à retrouver notre véritable vie, eh bien, on commence à être en train de vivre selon notre nature. Pour ça que je vous dis sans arrêt, nous avons rappelé ce petit détail qui est énorme, qui n'est pas un petit détail, c'est toute la paracha de cette semaine, Lech Lecha. Tant qu'un homme d'Israël ne vit pas sur sa terre, eh bien, il est déjà loin de sa nature, ne serait-ce qu'au niveau territorial. Donc, il ne peut pas retrouver sa véritable nature en dehors de la terre d'Israël. C'est l'inverse même. Je vais vous poser une petite question. Quelle est notre nature? Comment est-ce que vous savez que vous n'avez pas encore atteint votre nature? Quelle est la spécificité de la nature d'Israël? Qu'est-ce qu'on devrait être?
Droit.
Tu peux être droit. Tu peux être droit. Tu peux trouver des hommes qui sont droits. Quelque chose de beaucoup plus fort.
Géoula, Shlema.
Non.
Non.
Quelle est notre vocation? Qu'est-ce que nous sommes venus faire dans ce monde? Quelle est notre vocation?
Comment
non. Tout ce que vous dites, c'est vrai. Tout ce que vous dites, c'est vrai, mais ce n'est pas le but. Ce sont des moyens pour arriver à un but.
Mais comment on fait pour trouver sa nature alors?
Attendez. Vous ne savez même pas quelle est la nature. Je suis en train de vous poser la question, vous ne savez pas répondre. Quelle est cette nature? Quel est le test que tu es arrivé à cette nature? Qu'est-ce que tu dois être? J'entends pas.
De pouvoir vivre sur la terre d'Israël?
Non, pour être ce que je veux que tu me dises maintenant, le mot. Il y a un mot.
Serviteur d'Hachem?
Ok, mais plus. Non, tu es une neshama dans un corps, mais tu dois arriver à devenir quelque chose.
À toi, Israël.
Ada. Devenir.
Un seul mot. Nous sommes venus traduire les valeurs du ciel dans ce monde. Comment ça s'appelle?
La
prophétie. Tant que tu n'es pas prophète, c'est que tu n'as pas encore retrouvé ta véritable nature. Parce que nous sommes tous des prophètes en potentiel. Nous avons été créés prophètes. Vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter? Maintenant, pour se sauver de cette prophétie, je n'ai pas envie de jouer ce jeu. Je n'ai pas envie de devenir prophète. Qu'est-ce que je dois faire? Très simple.
Mais notre manager,
tu te convertis à l'islam?
Pas du tout. Tu peux te convertir à ce que tu veux, ça ne sert à rien. Il y a une seule chose qui peut t'empêcher de devenir prophète.
Sortir d'Eretz Israël.
Exactement. Sortir d'Eretz Israël. Quel est l'exemple dans la Torah?
Yonah.
Exactement. Vous avez tout compris. Donc, Yonah, pour ne plus être fidèle à son identité, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte Israël, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui s'arrête en réalité d'être?
Prophète.
Prophète. Donc, il ne joue plus son rôle. Il n'a plus envie de jouer son rôle. Vous avez compris? Donc, il y a quelque chose d'énorme. Nous sommes des prophètes. Vous avez été créés prophètes. Qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand?
Prophète.
Yafé Mehod, Navi.
Prolachide.
Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un Navi? On va approfondir un tout petit peu plus.
Une personne qui reçoit le corps d'Hachem.
J'entends pas, je vous entends pas bien parce que moi je parle fort, mais votre micro n'est pas assez puissant.
Une personne qui veut parler avec Hachem?
Non, non, c'est exactement l'inverse. C'est quelqu'un à qui Hachem parle.
Hachem parle, ouais.
C'est pas la même chose, attention. C'est pas que l'homme parle à Hachem, c'est que c'est Hachem qui prophétise l'homme. Vous êtes avec moi?
Ouais.
Ça veut dire ça vient, n'oubliez pas le mouvement du haut vers le bas ou du bas vers le haut?
Du haut vers le bas, du coup.
Du haut vers le bas, toujours. Comment on dit en hébreu? Hachem menabe et ha-adam. C'est Dieu qui prophétise l'homme, qui met les paroles dans sa bouche. À partir du moment où l'homme devient ce véhicule de la parole de Dieu, qui parle vraiment? Lui ou Akadosh Baruch Hu?
Hachem.
Hachem, à travers son être à lui. Eh bien, c'est exactement notre rôle, le rôle du peuple d'Israël sur le podium de l'histoire humaine. C'est Akadosh Baruch Hu parle à travers le peuple d'Israël. Seulement, il ne peut pas le faire en dehors de sa terre. C'est pour ça qu'il y a la mitzvah de venir habiter sur cette terre pour rejoindre son identité, ce que je vous disais tout à l'heure, pour retrouver le repos. Et c'est pourquoi... Tant que tu n'es pas sur ta terre, dit la Torah, et au niveau de la colombe, que Yonah, que Slicha, que Noach a fait sortir, a envoyé une colombe, Velo Matz'a Hayonah Man Noach, le Kaf Ragla. La colombe n'a pas trouvé de position de repos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'elle n'est pas encore à sa place. Dans le livre de Dvarim, au chapitre 28, c'est beaucoup plus fort. Ubagoïmaem, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, c'est une clé. Dans les nations vers lesquelles vous allez être en exil, lo targia, jamais tu seras calme. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas dans des moments où tu as l'impression que tu es tranquille. Tu ne seras jamais véritablement tranquille. Velo yé manoach le kaf raglecha. Jamais tu n'auras de repos en dehors de ta terre. Toi, l'homme d'Israël.
Mais du coup, on doit être prophète pour Israël ou pour les autres peuples?
Du coup, on doit être prophète pour les nations du monde. Nous sommes tous un peuple de prophètes à partir de la terre de la prophétie pour diffuser la parole de celui qui nous prophétise, Akadosh Baruch Hu, vers les nations du monde.
Mais Rav, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il a eu la prophétie alors qu'il n'était pas en Israël?
Très très bonne question. Mon cher Rabbeinu, les sages nous expliquent qu'Akadosh Baruch Hu était obligé de commencer à prophétiser parce qu'on était en voie d'aller pour la première fois sur la terre. Une fois qu'on est rentré sur la terre, ce système est terminé, on ne peut plus prophétiser à l'extérieur d'Israël, si ce n'est qu'en étant déjà en terre d'Israël et en ayant un rapport avec la terre d'Israël. Avant cela, ça a été le cas juste pour préparer à l'entrée en terre d'Israël. Donc il y a eu en fait une exception qui confirme la règle, que la prophétie a pu être avant qu'on entre en terre d'Israël parce qu'on était en voie de fonder la nation sur sa terre. Après cela, c'est terminé. C'est comme la prière. On avait le droit de prier partout, de faire des autels de sacrifice de partout, jusqu'au moment où on est arrivé en terre d'Israël. Une fois qu'on est arrivé sur la terre d'Israël, il y a ce qu'on appelle Issur Habamot. On n'a plus le droit d'apporter un korban en dehors de la terre d'Israël et en dehors du lieu qu'Akadosh Baruch Hu a choisi lui-même. D'ailleurs, toutes les tefilotes que vous faites, quand quelqu'un se trouve en France, en Amérique, il y a une mitzvah, Veit Palelu Elai Derech Artsam. Ils sont obligés de prier à travers, via la terre d'Israël seulement. Tu ne peux pas prier directement à Dieu. La tefila ne monte pas de Paris chez Akadosh Baruch Hu. Ça n'existe pas. Elle doit passer par Yerushalayim, par Bet Amigdash, par le Kodesh HaKodashim, même s'il n'existe pas. L'endroit lui-même à garder, c'est la porte par laquelle passent toutes les tefilotes. Aucune tefila ne peut monter directement.
Donc, grâce à ceux qui habitent à Paris, puis pas Hachem, en fait.
Slicha, exactement. C'est pour ça que la Gemara dit, dans le traité de Avodah Zara, quelque chose de très grave, que ceux qui habitent en dehors d'Israël sont des serviteurs de la Avodah Zara, parce qu'au lieu de parler à Hachem directement, ils sont obligés de passer par l'intermédiaire qui domine l'endroit où ils se trouvent en exil. Et cet ange va faire venir la prière en terre d'Israël pour la donner à Kadosh Baruch Hu. Et comme il y a un intermédiaire, ça s'appelle de la Avodah Zara. Très grave. Ok, alors je continue.
J'y crois pas trop, quand même, c'est pas plus cohérent.
J'entends pas ce que vous dites.
Pas du tout. J'ai du mal à croire vos propos que de dire que en fait, ça arrête, on ne prie pas pour Hachem.
C'est pas que tu pries pas pour Hachem. C'est pas moi, c'est pas mes propos, c'est une Gemara Meforeshet. Dans le traité de Ketubot 110, dans le traité de Avodah Zara 7, c'est écrit clairement. Ça veut dire que c'est les paroles de nos sages. Ça ne veut pas dire que tu ne pries pas Dieu. Toi, tu veux prier Dieu. Mais malgré toi, tu es dans une frontière qui est étrangère parce qu'Akadosh Baruch Hu se focalise, entre guillemets, sur la terre d'Israël. C'est une réalité. Si c'était vrai ce que tu dis, que tu as du mal à comprendre, alors on aurait pu imaginer qu'on construise le Beth Amikdash à la rue des Rosiers. Ça n'existe pas.
Rav, alors pourquoi il y avait beaucoup de Rav en route à l'arrêt?
Tout simplement parce qu'ils priaient pour arriver un jour à la terre d'Israël, et tant qu'il n'y avait pas de gouvernement, de souveraineté, eh bien la chose était dans un malheur. C'est pour ça que ce n'est pas un idéal, l'exil. Vous comprenez bien que s'il suffisait de prier Dieu, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il aurait évité de faire? De faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Pourquoi les faire sortir d'Égypte? Il y avait des communautés en Égypte? Oui ou non?
Oui.
Il y avait des grands rabbins en Égypte? Oui ou non?
Oui.
Il y avait Aaron à Cohen. Alors pourquoi sortir d'Égypte? Il n'y a qu'à monter des communautés en Égypte, faire une cacheroute, Beddin de Alexandrie, avec la Rabbanout Arachid d'Alexandrie, des Talmudé Torah, des Yeshivot, et on reste en Égypte, on est tranquille, on sert Dieu à partir de là-bas. Pourquoi faire tout ce cinéma de faire la sortie d'Égypte? Vous pouvez m'expliquer? Tout simplement parce qu'au moment où Akadosh Baruch Hu dit à ce peuple, vous devez commencer à jouer votre rôle, je suis obligé de vous faire sortir d'Égypte pour vous amener sur la terre à partir de laquelle vous jouez ce rôle. Là-bas, vous ne jouez pas encore votre rôle. Sinon, il n'y a pas de nécessité à sortir d'Égypte. Il n'y a pas de nécessité à faire son alia en terre d'Israël.
Alors, Rav, les gens qui sont en Khoutz-Laretz aujourd'hui, ils devraient ne plus prier s'ils font la
Vodazara. Ils sont obligés de prier malheureusement parce qu'ils font partie de notre peuple, mais ils doivent savoir cette halakha et tout faire pour arrêter ce mouvement qui n'est pas naturel, qui n'est pas selon leur nature.
Alors, le rabbi, il aurait dû venir en Israël alors.
Bevadai. Et là, en ce moment où je suis en train de vous parler, au moment où je suis en train de vous parler, on aurait dû parler en quelle langue? En Lashon HaKodesh. Ça veut dire que même notre langage maintenant, vous savez comment on l'appelle en hébreu? Laaz. Vous avez déjà entendu? Laaz. Laaz. Lamed. Ain Zain. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les initiales de Lashon Avoda Zara. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On est malade de 2000 ans d'exil. Alors, on est obligé tout doucement, pour guérir, de continuer à parler français. Mais vous voyez qu'à chaque fois, j'essaye de faire rentrer des paroles en hébreu. Ken.
Arabe.
Oui. Je vous écoute.
Vous m'entendez?
Non, j'entends pas.
Comment on explique que les prières sont exaucées en fait?
J'ai entendu celui qui a dit arabe. Donc, il peut me dire lui les questions peut-être, parce que j'entends rien du tout de loin.
Rav.
Oui.
Comment on explique que les prières ils sont exaucées en Khoutz Laretz?
Justement, parce qu'Akadosh Baruch Hu prend en compte l'impossibilité de l'homme, mais jusqu'à un moment donné où Akadosh Baruch Hu demande de faire le pas et de jouer son véritable rôle. C'est sûr que Akadosh Baruch Hu ne laisse pas. Ce n'est pas que les gens là-bas ne valent rien du tout et que leurs tfilot ne valent rien. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Alors, Akadosh Baruch Hu prend en compte cette difficulté et les Chachamim vont nous dire que les synagogues en Khoutz Laaretz, c'est comme Eretz Israël pour justement éviter ce problème. Mais en réalité, c'est comme, ce n'est pas. C'est comme. On appelle en hébreu Bechinat Eretz Israël. C'est un semblant de.
Merci.
Voilà.
Merci.
Toi, je t'entends bien. Donc, s'il y a des questions, dites-lui. Comment tu t'appelles?
Dan Elbazra.
Alors, Dan, c'est toi qui est responsable de poser les questions. Je ne sais pas, tu dois être très proche du micro. C'est toi que j'entends.
Il n'est pas dans la classe.
Il n'est pas dans la même pièce.
Ah, il n'est pas dans la classe, c'est pour ça. Alors, lui, il doit entendre les questions. Moi, je ne les entends pas très bien. Donc, quand vous posez des questions, il les reposera pour vous.
Rav.
Quel?
Je suis un peu prophète.
Synagogue, on va parler qu'en hébreu alors. Déjà.
Je suis un peu prophète.
J'ai pas entendu.
Dans une synagogue, on va parler qu'en hébreu alors. Vous avez dit c'est comme Israël.
Normalement, on devrait parler en hébreu. On devrait parler en hébreu, mais encore une fois, je vous ai dit, on prend en compte que nous sommes tous malades de 2000 ans d'exil, et donc on. Tout doucement, on va essayer de guérir de cette maladie. Alors, vous n'êtes pas monté en Israël peut-être seulement pour vous, vous êtes monté pour vos enfants et pour vos petits-enfants qui vont naître, Be'ezrat Hashem, israéliens et qui vont parler couramment la nature, leur langue naturelle. C'est tout simple en réalité. C'est tout simplement revenir à cette nature. De la même manière, quand vous respectez le Shabbat, vous respectez en fait la source de tous les temps, c'est la nature. Donc un homme juif qui observe le Shabbat, qui observe les mitzvot et la Torah, eh bien il devient de plus en plus fidèle à sa propre nature, à sa propre culture, à sa propre identité. C'est très très simple et très très sain ce que que je suis en train de vous dire. Et n'essayez pas sans arrêt de trouver des excuses pour justement renforcer la vie en dehors de cette terre. On l'a déjà fait depuis 1000 ans et Akadosh Baruch Hu nous dit stop. Le moment est arrivé de faire la Géoula. La Géoula ne se fait pas à l'extérieur de la terre d'Israël. Donc, il faut arrêter sans arrêt de vouloir justifier des choses.
Ah, okay. Est-ce que les personnes qui pensent, par exemple, les Satmer ou alors les Netro et Carfa, qui pensent qu'on ne doit pas retourner en Israël, est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont complètement éloignés du peuple juif ou pas?
En réalité, c'est les Satmar et à leur tête Rabbi Yoel de Satmar, qui était un grand sadique, qui est décédé maintenant, disait cela parce qu'il ne reconnaissait pas l'État d'Israël comme une souveraineté, c'est-à-dire comme un royaume. La plupart des hommes juifs aujourd'hui, même des religieux, même des non-sionistes, entre guillemets, comme les Haredim, acceptent aujourd'hui, et à leur tête, le Rav Ovadia Yosef Alav HaShalom, que la terre d'Israël est un royaume. Et c'est pour ça qu'il y a un din de malchut à la terre d'Israël, disait le Rav Ovadia Yosef Zatzal, que si tu voles les impôts israéliens, tu es en train de voler le royaume d'Israël, Chas v'shalom. Donc c'est une halakha qui a complètement chamboulé tout le monde haredi, et tout le monde accepte en réalité qu'il s'agit d'un royaume. Les Satmar n'acceptent pas l'État d'Israël comme étant un royaume. Donc, pour eux, il n'y a pas de nécessité à venir habiter ici.
Okay. Donc, du coup, est-ce qu'ils sont complètement éloignés du peuple juif ou pas, c'est pas ça.
Forcément, ils sont en dehors du peuple et malheureusement, les agissements nous le prouvent, puisqu'ils soutiennent même nos plus grands ennemis et ils deviennent même conseillers de nos plus grands ennemis, même de ceux qui veulent nous détruire et ils prient pour notre destruction. Donc, c'est quelque chose qui est complètement maladif. Ça ne sert à rien d'en parler. Ken ?
Est-ce que c'est marqué quelque part Est-ce que c'est marqué quelque part, ça, qu'il faut venir, enfin, ce qu'il dit les Satmer, de venir habiter en Israël, enfin, qu'on ne vient pas habiter en Israël tant qu'il n'y a pas d'État souverain total, quoi ?
Tant qu'il n'y a pas d'État souverain, eux, ils disent que ce n'est pas la nécessité. Ça veut dire qu'ils ont l'impression que c'est le Mashiach qui va les ramener. Or, dans les lois du Mashiach que nous a laissé le Rambam, dans les Hilchot des Rois, dans les Hilchot Melachim, il est dit clairement que le Mashiach va construire le temple et il va ramener ceux qui n'ont pas encore eu la chance de venir, il les appelle Sanidachim, ceux qui ont été repoussés. C'est pas qu'il va, son rôle c'est de ramener les Juifs de la diaspora en terre d'Israël. C'est seulement ceux qui n'ont pas pu atteindre, ceux qui sont encore une fois perdus malheureusement dans les pays d'exil, on les appelle Nidachim, en hébreu c'est une traduction très claire, je ne suis pas en train de vous inventer des choses, Nidach, Doré, Dechia veut dire repousser,
okay.
Rejeter, et c'est cela qui va ramener, donc ce n'est pas son rôle. Au contraire, pour ériger le roi Mashiach, nous sommes censés déjà être là. Donc, nous sommes déjà en terre d'Israël. Ok, alors, on continue. Donc, Veloya Noir, regardez le texte sur l'écran. Veloya Noir, Veloishkot, donc tu n'auras jamais de repos, jamais de tranquillité, Sheket, Achi Gale Tivo, tant que tu n'auras pas dévoilé ta source. Et ta nature. Donc, combien de sortes de nature nous avons en général?
L'infinité.
Trois, pas une infinité, trois. Nous avons le temps qui correspond à notre source, nous avons l'espace qui correspond à notre source, et nous avons notre identité qui devrait correspondre à notre source. Vous êtes avec moi?
Oui.
Comment est-ce qu'on a appelé ces trois degrés dans le cours d'avant?
Hachan,
exactement. Olam, Shana et Nefesh. Il y en a un au moins qui suit, c'est bien. Olam, Shana et Nefesh. D'où est-ce qu'on tire ces trois pôles? Qui c'est qui nous l'enseigne? Non, c'est pas Moshe, c'est bien avant Moshe.
Ah, c'est Avraham
Avinu. Il a fait Avraham Avinu dans un livre qui s'appelle Sefer Yetzira. Donc, à chaque fois que je veux développer un sujet quelconque, je dois développer les trois sujets que je viens d'évoquer. Par exemple, je vais un petit peu vous choquer. On va parler du Shabbat. Quand tu veux maintenant donner un cours sur le Shabbat, tu dois parler de combien de Shabbat en fait? De trois Shabbat. Alors dites-les-moi, le Shabbat du temps, le Shabbat de l'espace, de l'endroit, et le Shabbat de l'identité. Alors on va commencer. Le Shabbat du temps, vous le connaissez? C'est le Shabbat. Le Shabbat de l'espace, du lieu, c'est où?
En Israël.
Eretz Israël. C'est le Shabbat de l'espace. Vous comprenez? Et le Shabbat de l'identité, il est où mon Shabbat? C'est quoi mon identité qui s'appelle Shabbat?
Am Israël.
Ma Neshama, exactement, Am Israël. Vous avez compris? Tant que tu n'as pas développé ce sujet dans ces trois degrés, eh bien, tu peux observer le Shabbat seulement au niveau du temps. Mais tu n'observes pas le Shabbat au niveau de l'espace parce que tu n'habites pas à l'endroit où tu devrais habiter. Et tu ne respectes pas ta Neshama, donc tu ne respectes pas le Shabbat de ton être. Donc, pour respecter le Shabbat, il faut respecter trois Shabbats. Le Shabbat du temps, le Shabbat de l'espace et le Shabbat de mon identité. C'est très simple ce que je suis en train de vous dire. C'est très clair. Mikan, anu omdim al sod itgabrut atnua le shivat Israël et arzo bezman haacharon. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui maintenant, et je vais vous dévoiler un secret, sod, itgabrut atnua, il va y avoir une accélération, un renforcement du mouvement, tnua c'est un mouvement, le shivat Israël et arzo, du retour d'Israël sur sa terre. Bazman à Aharon dans les derniers moments de l'exil. Vous avez compris? Nous dit le Rav, à cause de ce manque de tranquillité, étant donné qu'il y a un mouvement qui pousse à ce retour, que se passera-t-il en fait? Eh bien, il y aura forcément un retour des enfants d'Israël sur sa terre. Est-ce que ça se réalise, cette prophétie? Bien sûr, ça se réalise. Vous voyez bien que la majorité du peuple d'Israël aujourd'hui est sur sa terre. Donc, ça se réalise. Donc, la prophétie n'a pas menti. Okay? Alors, vous allez me dire, oui, mais vous êtes avec moi ou pas? Je vous sens très perturbé là-bas derrière.
J'avais une question. Et du coup, ça veut dire que s'il y a une accélération du retour d'Israël vers sa terre, est-ce que ça veut dire que tout Israël va revenir ou bien alors il y a une partie qui va rester exilée même à Hachéa?
La plupart des enfants d'Israël vont venir, ce qui est le cas déjà maintenant. Et ceux qui n'auront pas le mérite, je ne sais pas comment ça va se passer, parce qu'en Égypte, je vous rappelle que ceux qui sont sortis d'Égypte n'étaient que un cinquième. Si chas v'shalom, ça se répète, eh bien, il y aura des gens qui vont rater, en fait, malheureusement, qui vont rester dehors. Et c'est cela, peut-être, dont j'ai parlé tout à l'heure, que le Mashiach va aussi faire en sorte de ramener, de rapatrier après, pour ne pas les laisser en dehors de l'histoire. Mais, bien entendu, ce n'est pas la même valeur. Vous comprenez bien que ce n'est pas la même valeur. Ceux qui sont montés maintenant, comme vous, lorsqu'il n'y a pas encore la Géoula d'une manière très claire, dévoilée, vous n'avez pas la même valeur que ceux qui vont venir quand le film, ceux qui vont venir quand le film est déjà là, vous comprenez? C'est comme ceux qui ont traversé la mer. Ceux qui ont attendu que la mer soit sèche pour rentrer n'ont pas le même niveau que ceux qui sont rentrés quand il était encore de l'eau. C'est toujours la même histoire qui se répète. Est-ce que tu es capable de te jeter à l'eau? C'est de là que vient l'expression.
Rav, qu'en est-il de nos morts?
J'entends pas.
Qu'en est-il des morts qui sont morts en Galoute?
Les morts, la Gemara, dans le traité de Ketubot à la page 110, nous dit que Yaakov Avinu ne voulait pas être enterré en dehors de la terre d'Israël, tellement il y aura une souffrance pour ceux qui sont morts là-bas, qui devront creuser la terre pour arriver jusqu'à la terre d'Israël, souterrain.
Pour rapatrier tout le monde, Rav.
Nahon. Nahon, c'est ce que nous sommes en train de faire, Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, parce que nous les aimons, ce sont nos frères, et surtout dans cette paracha de Lech Lecha, où il est dit tellement clairement que c'est la place du peuple d'Israël, c'est marqué en long, en large et en travers durant toute la Torah. Donc, ce n'est pas des choses avec lesquelles on doit se battre pour essayer de prouver que c'est une mitzvah. Il faut arrêter ces bêtises-là. Ça suffit. On sait très bien ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. On sait très bien qu'il nous a fait sortir d'Égypte pour nous amener ici parce que c'est à partir de là que nous pouvons jouer notre rôle. Donc, je continue. Même si tu vois que dans ce retour-là, Yeshnam Pgamim, il y aura beaucoup, beaucoup de problèmes. On le voit. Vepratzot et des gens qui vont profaner le Shabbat et qui vont manger pas kasher et qui vont faire des choses terribles. Bedeot ou bemaasim, que ce soit au niveau de leurs esprits et au niveau de leurs actes. Arei yeshna baze atzmo re'aya gdola al erech hateva habari shel Israël. Dit le Rav, c'est une preuve de plus que la nation d'Israël est saine. Pourquoi? Parce que si c'est ces gens-là qui ne mangent pas kasher, qui ne font pas Shabbat, qui ne veulent rien faire, qui viennent quand même en terre d'Israël, c'est que dans leur subconscient, ils sont fidèles à leur nature. Ils savent que c'est ici qu'ils doivent être. Alors c'est vrai, il leur manque d'autres degrés qu'ils n'ont pas encore compris, mais ils ont compris le cheminement général, c'est-à-dire la direction de la terre d'Israël. Vous êtes avec moi, vous avez compris?
Oui.
Le Rav va prendre le côté négatif et va le transformer en chose la plus positive qui soit. Si tu me dis que c'est seulement des religieux qui montent en terre d'Israël, je t'aurais dit d'accord, ils ont compris. Mais là, le fait que ce soit des hommes et des femmes non pratiquants, qui n'ont aucun rapport avec rien du tout, si ce n'est qu'ils veulent venir en Israël, ça te prouve que dans leur subconscient, ils n'ont même pas conscience de cela, ils sont fidèles à ce lieu de la terre, à la terre d'Israël. Et donc, ils sont saints à l'intérieur. Et ils ne peuvent plus rester en exil. Veliot avadim le'amim zulatam. Et rester esclaves à des nations étrangères à leur propre culture. Voilà encore une preuve de Avodah Zara. En exil, nous sommes esclaves d'une autre nation. Par exemple, tu dois payer des impôts à un pays qui est étranger à tes intérêts. D'accord ? Avec les impôts que tu payes, je ne sais pas où, en Iran, il y a des juifs qui habitent en Iran, ils payent des impôts en Iran, eh bien l'Iran va transformer ses impôts en armes chimiques et atomiques contre Israël. Vous avez compris ? C'est une folie. Mais ça se fait pareil dans tous les domaines. Là, j'ai donné un exemple clair qui existe en plus, mais il y a des exemples qui sont sous-jacents et qui ne sont pas moins graves. Ve'ad Rabba, dit le Rav, justement, justement parce que nous voyons que ceux qui se sont éloignés d'Akadosh Baruch Hu, ve'torato et de sa Torah, ve'yavash ma'ayan emunatam, ils n'ont même plus de emuna, tout est sec à l'intérieur, et malgré cela, hem nimshachim la'aretz, c'est eux qui sont attirés à revenir vers la terre. Ça, c'est extraordinaire. C'est en dehors de l'ordinaire. Vous comprenez bien. Yod im, à nous. Donc nous savons, et nous le savons très bien, dit le Rav, les Madei Beberur Gamour, d'une manière très claire, chez Kol Zenovea, que tout ceci, ce mouvement-là, des gens qui sont loin de la Torah et des mitzvot, qui n'ont même pas de Emouna, s'ils arrivent quand même en terre d'Israël, nous savons que ça vient de quoi ? Mipnesha Teva shel Israël mitnaged la galut. Tout simplement parce que la racine et la nature d'Israël est contraire à l'exil. Donc quelqu'un qui se trouve en exil, qui fait partie du peuple d'Israël, comment il devrait se sentir tout le temps, tout le temps, tout le temps ? Bien dans sa peau ou mal dans sa peau ?
Mal.
Mal dans sa peau. Si un homme vit en exil et il est bien dans sa peau, qu'est-ce qu'il est en train de prouver ? Qu'il est
contre nature.
Qu'il est malade, qu'il est contre nature. C'est comme quelqu'un qui saigne, mais il ne sent rien du tout. Ça veut dire dans 10 minutes, il va mourir. Si tu es mal en exil, si tu te sens mal en exil, c'est que tu es saint. C'est que tu es encore lié à quelque chose de propre en toi. Mais si tu es heureux, si tu es tranquille, s'il ne te manque rien, ça veut dire que tu es très malade. Sentir sa maladie, c'est quelque chose de très sain. Quand est-ce que tu sens quelque chose ? Je vais le dire d'une autre manière. Quand la chose te fait mal, on est d'accord ? Est-ce que maintenant vous sentez votre tête ? Non. Mais si vous avez mal à la tête, vous sentez la tête. C'est pas bizarre ? Ça veut dire j'ai besoin d'avoir mal à la tête pour sentir que j'ai une tête. D'ailleurs, en hébreu, comment on dit « j'ai mal à la tête » ? Je sens ma tête. Incroyable. Ani chash beroshi. Chash, je sens. Je suis dans le sentiment de mon être. Ça veut dire, tant que je ne sens pas ma main, eh bien, pour moi, c'est comme si elle n'existait pas. Alors, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu te fait ? Il te fait mal à la main pour que tu sentes que tu as une main et que peut-être tu ne fais pas ce qu'il faut faire avec elle. Donc, sentir ce malaise en exil, c'est une bénédiction divine pour un juif. Ça veut dire qu'il est mal là-bas. Il devrait être mal dans sa peau là-bas. Et s'il se trouve mal et s'il se sent mal, c'est qu'il est complètement sain.
Ah. Ken. Oui, vous avez parlé notamment des juifs en Rousse-Larès qui payent les impôts. Vous dites que c'est pas, on va dire, c'est pas kadosh, c'est pas très sain. Mais maintenant, pensez-vous des juifs en Rousse-Larès qui font fortune et qui notamment ouvrent des yeshivot ou on va dire qui investissent ici en Israël. Par exemple, ici de la yeshiva où on se trouve, elle a été fondée par un Australien.
Ken. Bien, encore une fois, je vous ai dit que nous sommes dans un processus. Si la direction... Le fait que ce soit passé comme ça, ce n'est pas une règle. Ça veut dire tout simplement que nous sommes dans un processus qui fait en sorte que les gens, même à l'extérieur, se sentent et ils ont envie de faire quelque chose pour le véritable degré de leur nature. C'est pour ça qu'il a fait ce qu'il a fait. Mais si, chas v'shalom, cet investissement aurait été fait en dehors de la terre d'Israël, c'est une double maladie. Alors, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont moins malades, il y a des gens qui sont en voie de guérison. Et tout ceci, en réalité, on est tous à l'intérieur. Nous aussi, on n'est pas complètement guéris, bien que nous soyons déjà là.
Investi pour créer une yeshiva hors d'Israël. C'est pas une bénédiction aussi ?
Je fais partie de la collection des jeux de la blog.
J'entends pas ce que vous dites.
Je dis, voilà, maintenant, imaginons ce fameux Australien, il aurait investi également pour faire une yeshiva hors d'Israël, en France, en États-Unis, ou je ne sais où.
C'est-à-dire, alors, vous comprenez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il sait que quelque chose se passe ici en terre d'Israël, mais il n'a pas encore une conscience totale, complète de la chose. Léat, c'est une voie, c'est un cheminement, c'est un processus. Ce n'est pas blanc et noir, on n'est pas manichéen. il y a des gris foncés et des gris clairs. Donc, petit à petit, on prend conscience que c'est ici qu'on doit être. C'est tout. Ça prend du temps. Ça prend apparemment 2000 ans. Et c'est pour ça qu'il y a, dans le temps qu'Akadosh Baruch Hu a donné, dans le traité de Sanhedrin 97, le temps est divisé en 3 fois 2000 ans. Puisqu'il y a 6000 ans dans toute la création, il y a 2000 ans de Tohu Bohu, 2000 ans de Torah et 2000 ans de jours messianiques. Ça veut dire quoi des jours messianiques? Des jours où on a de temps en temps une prise de conscience de plus en plus que nous devons revenir à notre nature. Ça va durer 2000 ans. Là, nous sommes à la fin de ces 2000 ans. C'est tout. Donc, il y a des exemples que vous pouvez me citer, bien entendu, mais ça veut dire qu'il y a quand même une certaine direction et petit à petit, les gens prennent conscience de l'importance de ce lieu géographique pour justement justifier ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. En réalité, où on fait ce qui nous arrange, où on fait ce qu'il nous demande. Et qu'est-ce qu'on a pour savoir ce qu'il nous demande? La Torah. Donc, si j'étudie la Torah, je vois qu'il me demande sans cesse de venir appliquer cette Torah sur la terre qui correspond, qu'il a créée lui-même pour ce degré-là. Et si je ne comprends pas ça, eh bien je fais des choses qui m'arrangent à moi, mais qui ne sont pas forcément dans le cheminement de la volonté divine. Alors, ça peut être aujourd'hui, mais pas demain. Parce que je peux prendre conscience entre aujourd'hui et demain. Et petit à petit, les gens prennent conscience, Baruch Hashem.
Ah, j'avais une question par rapport à ce que vous avez dit, si on faisait un peu une sorte, un peu des maths. Si jamais quelqu'un il est en Israël, mais qui ne fait absolument pas la Torah, mais du coup, il est revenu à l'essence de ce qu'était être un Israël, et que quelqu'un il est en dehors des restes d'Israël, et il fait toute la Torah, mais il ne peut pas venir en Israël, soit parce qu'il n'a pas envie, soit parce qu'il ne peut pas.
Ce n'est pas la même chose.
Ouais,
il n'a pas envie et il ne peut pas, ce n'est pas la même chose.
Le gars, il ne peut pas du tout venir en Israël, mais il pratique la Torah. Est-ce que, quand bien même il est voué après, le gars qui vient en Kutlaret, il est voué à s'assimiler, est-ce que le fait qu'il fasse les mitzvot, il va gagner un meilleur Olam Haba qu'une personne qui vient en Israël, sans faire les mitzvot?
Pas du tout, puisque le Rambam évoque ton exemple clairement. Adif ladour be'eretz Israël, afilu be'ir sheruba ovde avodazara. Un homme vivra même en terre d'Israël, dans une ville où tout le monde fait de la Avodah Zara, et n'habitera jamais en dehors d'Israël, même dans une ville où il n'y a que des juifs et c'est tous des religieux. Rambam, Meforash, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est de la halakha. Et en plus de ça, pourquoi la question est tellement tordue? Il n'y a pas une possibilité d'hommes normaux qui soit Shomer Mitzvot sur sa terre.
C'est vrai. Et Rav, si quelqu'un il vit dans les frontières d'Israël à l'époque, je ne sais plus jusqu'à où ça allait, mais admettons que ça allait jusqu'à l'Italie, et que le gars il vit en Italie actuellement, est-ce que c'est considéré comme s'il vit en Israël ou pas?
Non. Là où le peuple d'Israël marche et s'établit, ça devient une partie d'Eretz Israël. C'est-à-dire que si je conquiers une ville et que je l'habite, elle devient Israël. Mais tant que je n'habite pas à cet endroit et qu'il y a juste une petite minorité, ça n'est pas considéré comme la terre d'Israël, même si c'était dans les frontières.
Donc à Mashiach, on pourra aller pour conquérir d'autres pays, pour agrandir Israël.
Tout à fait. Lorsque le Mashiach se dévoilera, puisque la terre d'Israël redeviendra la terre de ses véritables frontières initiales. Là aussi, il y a un retour vers la source. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans les vraies frontières de notre terre. Notre terre est beaucoup plus grande que ce que vous voyez aujourd'hui.
Là, vous avez des frontières initiales, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas conquérir plus que ce que Shlomo HaMelech a fait.
On pourra revenir jusqu'aux sources de la Torah, pas seulement Shlomo HaMelech, les frontières que la Torah nous dit, qui ont été montrées à Moshe Rabbeinu, comme étant les frontières véritables, naturelles de la terre d'Israël. D'ailleurs, c'est le prophète qui va décider où passe la frontière. Et je vous pose une dernière question, avec ça on termine. Comment est-ce que le prophète va savoir où se trouve la frontière?
En prophétie.
Exactement. Si à un mètre à droite, il prophétise, c'est la terre d'Israël. S'il passe un mètre à gauche et qu'il n'a plus de prophétie, c'est que c'est déjà Chutz La'aretz.
Rav, j'avais juste une question.
Ça veut dire que les non-juifs en Houtz l'arrêt, est-ce qu'ils sont contre nature aussi?
Les non-juifs en Houtz l'arrêt ne sont pas contre nature puisqu'ils habitent à l'endroit où ils
en Eretz Israël, pardon.
J'ai pas compris.
Les non-juifs en Eretz Israël, pardon.
Les non-juifs en terre d'Israël sont contre leur propre nature, bien entendu, mais ils peuvent habiter ici s'ils se soumettent aux lois de la société israélienne et du gouvernement israélien. Et on doit les respecter. Mais s'ils veulent se soulever et créer un État dans l'État, il faut bien entendu les combattre. Merci pour votre écoute et Bezrat Hashem à la semaine prochaine. Toda Rabba.
Merci beaucoup. Bonne journée.